Tsugi Radio. Tsugi Radio. C'est nous la musique. Un podcast du Centre National de la Musique en association avec Tsugi Radio. Musique originale, Léonie Pernet.
Elles ne sont pas nombreuses, les femmes à la tête de salles de concert ou programmatrices de festivals. Alice Boinet est la programmatrice artistique du festival Art Rock de Saint-Brieuc depuis 2016. Un festival fondé en 1983 par son père, Jean-Michel Boinet, et sa mère, Marie Lostis, avec la volonté de mêler concerts, expositions, arts de rue, danse et théâtre. Alice Boinet, née en 1993, a toujours vécu au rythme du festival et c'est forcément là qu'elle a vu son premier concert.
J'étais toute jeune, j'avais 7 ans, c'était Moby à Art Rock, justement, à Art Rock 2000. C'est pas tant le concert en lui-même, même si c'est incroyable de voir Moby en concert, et franchement, je vous le recommande si un jour il remonte sur scène, mais c'était surtout cette excitation qu'il y avait autour du concert, parce que tout le monde était très conscient dans la salle que ça n'arriverait pas deux fois, que Moby était en train d'exploser, et que très clairement, ça allait devenir une star internationale qui ne reviendrait pas dans des festivals de la taille d'Art Rock. Mes parents étaient contre Disneyland finalement. Ils disaient toujours « Non, on va pas à Disneyland, mais nous, on va à la FIAC. » Et je trouvais ça terrible de snobitude et puis de façon. Mais à la fois, j'étais hyper jalouse de mes copines dans la cour de récré parce qu'elles, elles avaient le droit d'aller voir Mickey, Minnie, Daisy et Donald. Et moi, je les connaissais pas finalement. Mais c'est vrai que ça m'a permis de connaître plutôt Andy Warhol. Quand on est enfant, on a très peu de souvenirs de ce côté génial finalement qu'on a beaucoup plus adulte ou adolescent. On se rend compte qu'être dans les backstage d'un festival ou d'un théâtre, c'est quand même assez exceptionnel. Quand on est enfant, on n'a pas du tout ce côté exceptionnel dans la tête. On a plutôt le côté chiant, relou, parce que tes parents ne sont pas là le soir, parce qu'ils sont toujours en festival, ils sont toujours en concert. Et donc, toi, pendant 3 jours, tu es obligé de déménager de chez toi parce que tes parents, ils ont trop de travail pour s'occuper de toi. Donc finalement, je le voyais un peu comme une jalousie de ce festival qui était ma grande sœur, entre guillemets. Et puis finalement, au fur et à mesure, de se rendre compte que ça permettait à des milliers de personnes de s'éclater pendant tout un week-end, de découvrir plein d'artistes, je me suis rendu compte qu'au lieu d'être jaloux, je devais peut-être prendre part à ça et m'éclater moi aussi. J'ai des souvenirs à la fois de grands, grands shows que j'allais voir au Festival des Vieilles Charrues à Carhaix. Donc pareil, Carhaix, c'est à 1 heure de Saint-Brieuc. Et donc pour moi, c'était la première fois que je pouvais aller voir des stars internationales avec des shows incroyables, avec de la pyrotechnie, etc. Et je me rappelle d'avoir vu là-bas les Chemical Brothers ou par exemple Justice lors de leur première tournée ou même Rammstein, si on parle de pyrotechnie. Et je me prenais une baffe à chaque fois en me disant « Mais comment c'est possible de monter ça juste comme ça pour une fois ?» Enfin, j'avais l'impression que c'était pour une fois, puisque j'étais devant une scène, je ne me rendais pas compte que c'était une économie de tournée dans sa globalité. Les Yeah Yeah Yeahs, c'est très important pour moi parce que j'adorais leur album qui est sorti en 2005-06, un truc comme ça, qui s'appelle Show Your Bones. Et c'était un album que j'écoutais en boucle comme ça chez moi. Je connaissais toutes les paroles par cœur. Et puis Karen O, la chanteuse, était vraiment d'une importance pour moi. C'était une figure féminine, enfin une chanteuse qui avait le courage d'être charismatique, le courage de prendre la scène, de prendre le micro. Mais à l'époque, je ne m'en rendais pas compte. J'écoutais juste l'album dans ma chambre et j'en étais fan. Je l'écoutais en boucle. Je crois que l'album est complètement cassé tellement je l'ai écouté en boucle. Et puis ensuite, elle est venue à Art Rock en 2000. Enfin, ils sont venus, c'est quand même un groupe, en 2006 à Art Rock. Et pareil, je me suis pris une claque parce que je me suis rendu compte pour la première fois qu'un album qu'on adore peut devenir un super concert et que quelque chose qu'on a complètement sacralisé dans sa tête d'un artiste comme ça qui nous paraît presque intouchable et presque impossible à rencontrer ou juste à voir sur scène en vrai, qu'il n'existe presque pas finalement, que c'est presque mystique un artiste, c'était possible de le faire jouer sur une scène. Et à Saint-Brieuc, qui n'est pas une ville très facile, c'est une ville de taille moyenne, comme plein d'autres en France, qui a un centre-ville fort mignon, mais que beaucoup de commerces ont abandonné pendant un temps, et donc qui a une certaine pauvreté, un certain, ce qu'on appelle localement un Saint-Brieuc bashing, où la population a l'impression que cette ville est nulle par rapport aux deux géants qui nous entourent, je dis quand même géants, hein, Brest et Rennes. On a toujours l'impression qu'on est dans une cuvette comme ça, alors que finalement Saint-Brieuc est vraiment magnifique. Mais oui, c'est une ville qui n'est pas simple, il y a 45 000 habitants, c'est dur de la faire bouger, et pourtant il y a une offre culturelle qui est incroyable, il y a un musée, il y a une scène nationale, il y a une SMAC, et je trouve ça intéressant justement de continuer à proposer un festival dans une ville qui est compliquée, et de continuer à pousser les gens à être curieux. Moi, c'est ce qui m'excite dans la vie, dans la culture en général, c'est pousser les gens à être curieux et continuer de ne pas rester dans des cloisonnements, des niches, ça n'a pas grand intérêt finalement. Et donc, c'est ce moment-là où je me suis dit, ah, c'est possible de faire venir des artistes incroyables, internationaux à Saint-Brieuc, bah tiens, c'est une idée de génie en fait, j'ai envie de prendre part à ça.
Après ses études, Alice Boinet commence à s'orienter vers la musique et part en stage à la Route du Rock. Elle passera ensuite par le label Pias, où elle écoutait en boucle le premier album de l'Australie Alex Cameron, le groupe français Aline ou le deuxième album du groupe de Reims The Shoes. C'est en 2016 qu'elle intègre l'aventure hard rock. Femme, jeune et fille d'eux, sa prise de fonction ne sera pas de tout repos.
Forcément, ça a été difficile et je pense que toujours plein de gens pensent que je suis légitime ou du moins que c'est une forme de népotisme que j'occupe cette place depuis 8 ans. Et à la fois, je pense qu'en travaillant beaucoup pendant ces 8 dernières années, j'ai réussi à prouver que j'avais ma place ici. C'est-à-dire que ça a forcément simplifié mon arrivée à la programmation d'Art Rock. Mais à la fois, je connais par cœur le festival, donc j'arrive à le faire vivre dans toutes ses formes. On le disait, Art Rock, c'est pas que de la musique, et j'essaye toujours de créer des liens entre les différentes formes d'art, que ce soit la danse, le théâtre, l'art contemporain ou la musique. Le modèle d'Art Rock est tellement particulier sur la pluridisciplinarité qu'il est difficile parfois de trouver quelqu'un qui arrive à faire jouer comme ça différents arts. De fait, je suis née là-dedans, donc forcément j'ai compris ce truc de mettre tous les arts à égalité finalement. Et donc oui, forcément j'en ai souffert parce qu'il y a plein de haters sur les réseaux sociaux, et donc forcément c'est pas évident, on va pas se le cacher. Et à la fois je pense qu'au niveau du travail, au bout d'un moment, ben t'as envie de faire la nique un peu à ces haters en disant écoutez, ça fait depuis le Covid par exemple, on est complet chaque année sur les 3 soirs, c'était pas arrivé depuis des années à Rock. Je pense que je peux quand même être assez fière de mon travail et me dire que bon, le contrat est rempli et c'est ok, et j'ai prouvé que j'avais ma place ici. J'ai commencé à la programmation en 2016 et à l'époque, j'écoutais en boucle un album de Balthazar, un groupe belge, justement parce que je sortais un peu du stage chez Pias et j'adorais ce groupe et je l'écoutais en boucle, et donc pour moi, c'était impossible de faire ma première programmation dans toute l'histoire de ma carrière sans ce groupe qui, à l'époque, était, enfin à l'époque et toujours actuellement, était mon groupe préféré, quoi. J'adorais ce groupe et donc j'étais très contente qu'il joue à Rock.
Time I walk on by, stroll along your street. Can't believe there's not a thing in the world, a thing left to repeat.
Notre travail, c'est d'établir un équilibre entre les attentes qu'a le public, les artistes qui veulent absolument voir au festival cette année, et à la fois savoir le surprendre, justement le rendre curieux. On revient à cette notion-là. Et donc forcément, on va programmer des artistes que personnellement on n'adore pas ou qu'on n'écoute pas soi-même. Et la première fois que je l'ai fait, c'était Julien Doré en 2017. Julien Doré, moi j'avais une vision de lui, comme tout le monde, d'un candidat de télécrochet qui avait sorti une super reprise de Lolita d'Alizé. Mais je voyais pas beaucoup plus loin. Et puis il a sorti son album. Et enfin c'était une esperluette là, le signe est. Et puis je l'ai écouté, j'ai lu beaucoup d'interviews de lui et je trouvais intéressant justement ce personnage qu'il se créait et puis cette musique, là où il a réussi à se détacher justement de ce seul personnage d'ex-candidat de la Nouvelle Star qui lui collait un peu au basque. Et je trouvais sa démarche artistique assez intéressante. Alors moi-même, j'écoutais pas son album dans ma chambre, mais à la fois je trouvais intéressant de l'inviter, d'autant plus qu'en 2017, j'avais fait une programmation très rock sur le reste des jours du festival, le vendredi et le dimanche. On avait les Kills, Archive, les Black Angels, Metronomy, etc. Et donc j'avais besoin de créer un équilibre comme ça dans la programmation en invitant une tête d'affiche beaucoup plus grand public le samedi. Et je trouvais que Julien Doré pouvait remplir ce rôle-là. En 2018, j'avais programmé sur la même soirée Marquitza des Valdes et tout le monde m'était tombé dessus en disant mais t'es malade mental en fait, ça n'a rien à voir, tu fais n'importe quoi avec ta programmation. Alors de un, ça a très bien marché, et de deux, je trouvais ça très cool de faire se rencontrer des publics qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. C'est-à-dire que Marquitza, pour celles et ceux qui ne connaissent pas, c'est un groupe de rock rennais des années 80. Et Vald, c'est un rappeur français des années 2010. Donc forcément, on avait un peu du mal à les voir cohabiter. Et puis finalement, moi, c'est ça qui m'intéresse. C'est de faire se rencontrer des publics qui n'ont rien à voir. J'aime pas les festivals qui font une journée spéciale rap. Et surtout, les jeunes qui aiment le rap vont rester entre eux. Et une journée spéciale rock où les vieux fans de rock vont rester entre eux. Je trouve ça hyper triste, en fait. Et du coup, moi, j'ai envie que les gens se rencontrent et que les gens découvrent des artistes par ce biais-là aussi. Et j'adore mon petit cousin qui était fan de Vald est devenu fan de Marquitza, alors que franchement il n'était pas fait pour ça à la base. Donc oui, il y a un côté relou dans nos travails de passer notre temps au téléphone et de négocier, d'essayer de couper les coûts à tout prix, parce que ça coûte beaucoup d'argent de faire un festival, mais à la fois on peut pas se plaindre parce qu'on a un très beau métier. Et je vais dire un truc hyper cliché, mais quand tu vois ensuite le public arriver et s'éclater devant un concert, tu te dis bon, ça va, c'est cool en fait, ça valait la peine de faire tout ça. Qu'on maîtrise jamais totalement son métier, ou alors dans ce cas faut démissionner et se casser en vacances. Enfin, ça a pas grand intérêt si on se dit, si on prend l'énorme melon en se disant ça y est, je suis la boss, je fais trop bien mon métier. Mais une fois où j'étais hyper fière, enfin deux fois, c'était d'avoir repéré Clara Luciani dès son premier album Sainte Victoire en 2018 et Fontaines d'ici dans un genre très différent sur leur premier album aussi en 2019. Et j'étais très contente parce que, en fait, je me suis pris une claque sur ces deux albums, qui sont très différents les uns des autres. Et je voulais absolument les programmer à rock très rapidement. C'est-à-dire que j'avais déjà conscience que ça allait devenir des têtes d'affiche internationales et géniales. Et je voulais surtout pas qu'ils m'échappent, parce que je savais que très rapidement, avec l'économie un peu serrée du festival, on n'allait plus pouvoir se permettre de les accueillir. Pour moi, si on fait des concerts au lieu d'écouter des albums sur un parking assis tous ensemble à des milliers de personnes, c'est quand même pour voir des spectacles vivants. J'aime bien quand les concerts sont travaillés, justement. Ça peut être très simpliste aussi. Il n'y a pas besoin de décors, etc. Si, tant qu'il y a des bons musiciens sur scène, ça va. Mais, ou pas d'ailleurs, si c'est un bon rappeur qui est juste avec un DJ et juste une bande derrière lui, ça me va aussi parfois. Mais juste un concert qui est réfléchi pour le live, pour le spectacle vivant. Je pense que la programmation d'un rock, ça se rapproche de l'état d'esprit de Christiane O'Quinn, c'est-à-dire quelque chose de très global. Sur scène, Christiane O'Quinn a décidé de proposer quelque chose de phénoménal, où il y a des statues, où il y a des très bons musiciens avec lui. Et c'est beau, quoi. C'est vraiment un spectacle vivant. J'ai besoin d'être surprise, j'ai besoin d'être secouée, j'ai besoin de ne pas être pareil après ton spectacle, après ton concert qu'avant. Do you wanna spend the day? Stay in the water, just stay like the other. When nothing hurts your skin, yeah. Do you wanna know? Do you wanna feel the sun? The sun from underwater, from burning your shoulders.
something hurts within. Yeah. Do you wanna know?
Art Rock, comme presque tous les festivals, est confronté à d'importantes contraintes budgétaires. Avec l'envolée des cachets, des coûts techniques, de l'énergie, l'inflation, ce qui n'empêche pas Alice Boinet d'offrir au public briochin des moments de concert inoubliables, comme en 2022 quand le festival a accueilli la première mondiale de la nouvelle tournée de Phoenix. Une sacrée prouesse puisqu'ils ont reçu les informations techniques pour le show quelques jours à peine avant le concert. Mais rien n'arrête Alice Boinet et l'équipe d'Art Rock, dont l'enthousiasme et l'énergie peuvent déplacer les montagnes.
Je pense que c'est plus difficile qu'avant parce qu'on a tous, à la fois producteurs et à la fois diffuseurs, que ce soit des salles ou des programmateurs de festivals, on a tous le même problème d'économie très serrée. Et donc on est obligé de faire des budgets très serrés et de couper les coûts le plus possible. Mais à la fois toujours en voulant respecter les artistes, puisque c'est quand même notre métier, et de bien les payer quand même à leur juste valeur. Mais je pense que c'est une relation de confiance qui se crée comme ça au fil du temps, quand tu deviens programmateur ou programmatrice, de travailler avec des producteurs, qu'ils soient indépendants ou que ce soit de grosses machines, enfin que ce soit derrière, j'en parle comme si c'était des entités, derrière il y a quand même des humains. Et donc tu leur présentes ton événement. Moi j'ai la chance de représenter un événement qui ne ressemble pas aux autres, qui est très particulier parce qu'il est en centre-ville, parce qu'il est à taille très humaine, parce qu'on bouge d'une scène à l'autre. On bouge d'une scène qui a une jauge de 250 places à une grande scène qui a une jauge de 9000 places. Donc on se permet comme ça des... Bon, moi je dis souvent, je défends un produit de luxe finalement. À Rock, ça ressemble pas à tous les festivals et donc la plupart des artistes sont très heureux d'y jouer parce que ça fait une espèce de respiration dans leur tournée où parfois, quand tu sors d'un tourbus dans un énième champ, t'as un peu l'impression que tu sais plus où t'es en fait. Est-ce que c'est l'est de la France, le sud, l'ouest? T'en as aucune idée. Enfin, je me mets à leur place. Et donc, oui, j'ai un produit luxe entre les mains, donc c'est plus facile peut-être de travailler avec des producteurs qui sont très contents de parfois faire des efforts économiques sur les cachets parce qu'ils sont conscients. Après, évidemment, parfois, t'as beau vendre un produit de luxe, ça marche pas et on te dit, bah non, tel artiste, en ce moment, il est en haut des charts, tout le monde le veut, donc tu dois payer tant. Et là, c'est à toi de faire des décisions, des arbitrages, en te disant est-ce que vraiment il est nécessaire pour l'équilibre global de ma programmation. C'est un métier qui n'a pas un début et une fin. En fait, on ne peut pas vraiment se dire je fais des journées qui commencent à 9h et finissent à 19h. Ce n'est pas possible, en fait, parce que tu t'inspires en permanence de tes écoutes, des expos que tu vas voir, des spectacles que tu vas voir, et donc même en vacances, finalement. Forcément, en fait, dans la rue, ça te fait penser à un truc, etc. Et tu te dis, ah tiens, et si je faisais une expo sur tel sujet ou tel autre. Donc non, ça ne s'arrête jamais. Mais à la fois, c'est ça qui peut être fatigant, qui peut être épuisant, mais à la fois qui est passionnant. C'est-à-dire que ça fait partie de ta vie globale. Parfois, ton entourage n'en peut plus. Des fois, mon entourage, elle me dit, mais attends, là, on dirait que tu parles comme si tu faisais un métier hyper compliqué, parce que vraiment, je m'arrache les cheveux, je suis hyper stressée, etc. Et puis, au bout d'un moment, j'ai besoin de ce stress. Je me rends compte que ce stress est hyper important pour moi, pour réussir à justement arriver au festival, pas hyper détendu, on va pas dire ça, mais... à arriver à profiter du festival, en fait, pendant qu'il a lieu. Pour moi, une artiste qui représente vraiment ce qu'est être femme dans l'industrie musicale, ce serait Kim Gordon du groupe Sonic Youth. J'ai toujours admiré la musique de Sonic Youth, mais ça me pose quand même un peu un problème, comme beaucoup d'historiens de la musique, et d'ailleurs souvent c'est des garçons, parlent beaucoup de Thurston Moore et de Lee Ranaldo, mais jamais du travail incroyable et de l'importance de Kim Gordon là-dedans. Et donc, je trouve ça un peu triste. Et puis ensuite, là, Kim Gordon, en 2020 ou 21, je sais plus, a sorti son premier album solo, No Home Record, et qui m'a vraiment permis de sortir du confinement bien. Alors que franchement, on va se le dire, la période du confinement était quand même d'une violence inouïe, surtout que les pouvoirs publics nous disaient très clairement qu'on était non essentiels. Mais oui, l'album de Kim Gordon a été d'une importance inouïe pour moi, encore plus peut-être que la musique de Sonic Youth. C'est un regret qu'on n'ait pas aussi nombreuses qu'il le faudrait en tant que programmatrice ou directrice de festival ou de salle d'ailleurs, de concert en France. Quand j'étais jeune, avant à Rock, pendant mes études, je faisais mes études à Rennes et avec des copines, on avait décidé de créer une association pour faire des concerts, organiser des concerts dans les bars et les bistrots de la ville, comme on fait souvent pour quand on veut devenir programmatrice, on commence quand même par une petite asso avec des copines. Et en fait, beaucoup de patrons de bars nous regardaient, donc on était trois femmes, nous regardaient arriver dans leur bar, on leur disait « Ah ouais, on a repéré un super groupe, alors voilà, on fait comme ça, on paye tout, vous avez rien à faire, juste nous accueillir. » Et les mecs nous regardaient et disaient « Ouais, vous voulez juste vous taper en fait des artistes, quoi. » Et on était mais hyper choqués de ça, on se disait « Ah ouais, ok, donc on est des jeunes femmes, donc forcément, on est en fait la figure de la groupie, quoi. » Et finalement, à force de travailler, à force de leur montrer que nos soirées marchaient, ça a marché. Mais c'était terrible d'être ramenée à ça, d'être ramenée à sa condition de femme, encore une fois. Et toujours actuellement, il y a des artistes que je ne citerai pas ou leur entourage qui arrivent à Rock et qui me disent « Bonjour, où est le programmateur ?» Je dis « Mais c'est moi, en fait. Bon, ça va, bienvenue chez moi. » Mais il y a toujours un problème de légitimité, malheureusement, pour les femmes dans la musique. Souvent, quand j'ai plus envie d'écouter de la musique, c'est le dimanche. Je déteste la journée du dimanche et du coup, j'ai plus envie d'écouter de la musique, mais j'écoute quand même de la musique, des espèces d'albums confort comme ça. J'écoute beaucoup les compilations du label Soul Jazz Records qui sortent des super compiles de hip-hop qui s'appellent Boombox et puis qui ont aussi des super compiles de reggae pour le coup, Studio One Roots, que je trouve assez incroyable. Et puis, il y a un album qui me fascine complètement dans l'avant-garde, enfin, sur l'avant-garde de la musique électronique française des années 70-80, qui s'appelle Cosmic Machine. Pareil, c'est toute une série. Mon préféré, c'est le premier, parce qu'il s'ouvre avec, c'est incroyable, avec un morceau introductif seulement instrumental de Patrick Juvet. Donc pour ceux qui connaissent Patrick Juvet, il est plutôt connu pour de la variété française, on va dire. Et là, en fait, ce morceau est juste instrumental électronique et sublime. Et je l'écoute en boucle, en fait. J'adore ça.
Chut. C'était C'est nous la musique avec Alice Boinet. Un épisode enregistré au Gainsbar, le bar de la Maison Gainsbourg. Un podcast du Centre National de la Musique en association avec Tsugi Radio. Musique originale, Léonie Pernet.